Nous allons passer à la présentation de Chute, un jeu vidéo pour l'éducation aux médias, par Jean Drihitier, qui est directeur de la médiathèque départementale de l'Hérault, après en avoir été directeur adjoint. Donc voilà, je le laisse s'installer. Et du coup, je mets ton PowerPoint.
Oui, tu peux lancer, merci. Bonjour, alors je vais trancher par rapport à ce que j'avais prévu de voir, parce qu'effectivement, j'ai un train à prendre si je veux être retour à Montpellier avant minuit, en passant par Paris. Voilà. Donc, tu peux passer à la deuxième diapo déjà, s'il te plaît. Bon, ça, je vais passer aussi, parce que ça a été dit tout à l'heure par Anna Marcuzzi. Ça fait longtemps que les bibliothèques sont saisies en fait du rôle social qu'elles pouvaient jouer et politique. J'avais mis une carte, je voulais vous parler du troisième lieu, mais enfin, je ne veux pas vous en faire l'affront, en fait, vous savez ce que c'est. Je voulais quand même montrer le réseau départemental de bibliothèques, c'est 235 communes. Donc là, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler sur une Google Maps. En tant que médiathèque départementale, c'est vrai qu'on a toujours cette optique-là, que ce qu'on fait, on le fait pour un réseau. Vous vous rappelez que nous, notre public, c'est pas le tout public, ce sont les bibliothécaires des communes du département. Voilà, alors rapidement, pour situer le contexte dans lequel le jeu Chute, dont je vais vous parler, a vu le jour. Alors, ça a été dit aussi tout à l'heure par Nicolas Gallo, hein, ça fait longtemps, ça a été repris par Marine Bedel, ça fait longtemps que les bibliothèques sont interpellées à différents sujets. On a été effectivement sur la théorie du genre, les médiathèques départementales le sont aussi beaucoup par les communes, face aux groupes de pression auxquels elles peuvent être confrontées. Donc les maires nous appellent pour savoir ce qu'ils doivent faire ou pas de ces collections. Mais c'est vrai que ce qui a été vraiment un électrochoc pour nous, ça a été les attentats contre l'équipe de Charlie Hebdo, suite à quoi tous les bibliothécaires de France et de Navarre étaient Charlie, sauf que nous, notre public, il n'était pas du tout. Hein. Il faut vous situer que la médiathèque Pierre-Vive qu'on a ouvert, alors c'est vrai que c'est une rareté, les médiathèques départementales ont peu d'établissements ouverts au public, mais ça se fait de plus en plus. Ça nous permet d'avoir un lieu expérimental et d'être dans la position de pouvoir un petit peu tenir un discours sur le public à notre réseau. Sinon, un petit peu, on est dans la position de ces profs qui forment des profs sans avoir même de classe, ce qui est assez intenable. On est à Pierre-Vive, dans un quartier politique de la ville, hein, c'est la Paillade. Alors maintenant, on dit la Mausson, c'est plus politiquement correct. De Montpellier, avec un public qui est constitué à 80% de jeunes de 14 ans et moins, issus d'un quartier avec la politique, enfin voilà, la sociologie qu'on connaît, hein, deux fois plus de personnes de moins de 25 ans, deux fois plus de personnes au chômage et deux fois plus de personnes d'origine étrangère. Donc ces publics-là, ils n'étaient pas du tout Charlie. Donc ça a créé évidemment un échange avec les bibliothécaires très très intéressant et qu'on a voulu creuser dans un premier temps en proposant l'espace ouvert comme si on était effectivement sous une dictature et qu'on ne pouvait plus proposer toutes les collections qu'on était censé proposer. Ça donne ça. Voilà, alors c'est pas complètement vide, hein. Vous voyez alors là c'est la presse par exemple sur la photo en bas à gauche. En haut, alors vous voyez, on a mis la rue Balise. Vous voyez, il y a quelques documents ici et là. On a été un peu sadique. Hein. Par exemple, on a enlevé tous les DVD, on a laissé des DVD sur l'architecture. Voilà, le genre de choses qui sont très, très empruntées, utilisées. Et on a demandé aux usagers, aux visiteurs, ce qu'ils en pensaient. Alors, si je peux passer à la diapositive suivante. Ça a été très intéressant parce que les réactions ont été positives par rapport à cette initiative-là. Ou pas, hein. On a eu des enfants qui ont pleuré de ne pas pouvoir accéder aux livres. C'était toujours très intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a fait des études d'usage, le premier usage, c'était l'accès Internet, hein, à la médiathèque. Le deuxième usage, c'est quand même l'accès aux livres. Alors, les mangas, la BD, la presse. Mais voilà, les enfants pleuraient, hein, de voir la bibliothèque dans cet état-là. Et ça nous a donné envie de continuer à creuser cette question de la liberté d'expression et de la censure à la médiathèque départementale. Alors, si tu peux passer à la diapo suivante. Pour ça, on a voulu stabiliser ce souhait qui venait de l'équipe, hein, de la médiathèque, qui s'est constituée en groupe de travail transversal pour creuser cette question, qui s'en est vraiment emparé. Et on a souhaité la formaliser, l'intégrer en dur dans notre projet d'établissement qui est, nous, le schéma de développement de la lecture publique et qui a donc été voté par l'Assemblée départementale dans les mois qui ont suivi. et qui mettait en priorité, en termes de public, les adolescents. Voilà, on a décidé qu'on allait travailler sur le temps de la mandature essentiellement vers ce public-là. On n'a pas refusé les personnes âgées ou les bébés, hein. Mais c'est que nos actions ont porté plutôt vers ce public-là et à intégrer dans le dur la défense du rôle des bibliothèques dans la liberté d'expression, ce qu'on a fait du coup également sur le réseau. Alors, si tu peux passer aux diapos suivantes, ça s'est traduit par des choses qui ont été évoquées, des ateliers dans les murs. Donc, vous avez sur la gauche Dadou, un dessinateur de presse. Vous voyez une de ses productions en bas qui va vous parler. Hors les murs, à la Comédie du Livre, là, c'est Julien Revenu qui... Alors, les deux croquaient sur les demandes du public, hein, sur les questions d'actualité. On a proposé aux bibliothèques du réseau des lectures autour de textes sur la liberté d'expression, sur la censure, à l'occasion de la nuit des bibliothèques. Bon, voilà, on a creusé ce fil rouge-là. Encore une fois, l'équipe est à fond avec les problématiques que ça pose. Ça a été évoqué ce matin. Dominique Larry en parlait. Des bibliothécaires qui défendent la liberté d'expression, mais dans le cadre d'une collectivité où tous les élus ne sont pas toujours très satisfaits de la presse locale, par exemple. Hein? Donc, il y a pu y avoir des questionnements. On peut comprendre qu'un élu, par exemple, décide de ne pas projeter un film comme Les Hommes du Président en plein entre-deux-tours et Affaire Fillon. Bon, ça peut être aussi vécu comme de la censure. Un élu qui souhaite que soit retiré des collections un organe de presse local qui le caricature en page centrale et le fait passer pour un imbécile, ça existe. Bon, quand on est là pour défendre la liberté d'expression et contre la censure, c'est compliqué de l'expliquer. Que ben voilà, c'est comme ça. Si tu peux passer à la diapo suivante, alors on travaille aussi de médiation des collections. Là, vous avez la fiche du Monde Diplo sur qui possède les grands médias. Les organes de presse de manière générale. Tu peux passer à la suivante, des conférences. Alors là, on a invité des journalistes de Mediapart et de la presse locale. Voilà, ce type de travail-là. Tu peux passer à la suivante. Mais on a également inscrit dans le schéma la question du numérique, par le biais de l'inclusion. Donc je l'ai évoqué assez rapidement parce que, voilà, vous additionnez tout ça, le public prioritaire adolescent, le contenu thématique défendre la liberté d'expression, le souhait de travailler en particulier sur le support numérique, on aboutit assez logiquement à la question de créer un jeu vidéo, d'autant que la médiathèque Pierre-Vive a été dès l'ouverture pensée pour accueillir beaucoup de jeux vidéo et du jeu vidéo indépendant. En particulier, le principe étant que comme tout le reste des collections, les jeux vidéo, les gamins, ils ont déjà les consoles chez eux, hein, ils ne nous ont pas attendus pour y jouer. Par contre, notre rôle est de leur représenter d'autres que ceux auxquels ils jouent le plus aisément. Alors, du coup, quel jeu vidéo ? On a voulu travailler sur un serious game. C'est pareil, c'est un principe que vous connaissez assez. Si on fait un jeu qui ne soit pas marrant, amusant, ils ne vont pas y jouer. Donc, ce n'est pas la peine de faire un jeu. On a voulu donc se dégager des logiciels éducatifs et faire quelque chose qui était vraiment amusant et qui fonctionnait parce qu'on avait d'abord envie d'y jouer. C'est le cas, sauf que c'est le cas parce que, non pas parce qu'on est très fort, mais parce qu'on s'est adjoint les services de quelqu'un dans le métier, qui est Oscar Barda, qui est game designer, donc créateur de jeux vidéo, qui a une boîte de jeux vidéo indépendante et qui a fait ça pour nous. Donc, dans ce jeu, il s'agit pour les jeunes d'incarner quatre artistes, un graffeur, un slammer, un danseur de hip-hop et un affichiste, donc des artistes urbains, qui vont avoir pour fonction d'éveiller les esprits des badauds dans un univers de différentes tyrannies qui, du coup, ont pour conséquence que tout le monde pense la même chose. C'est une pensée uniforme. Donc les badauds, en fait, sont présentés par des petits personnages dans la ville qui sont tous de la même couleur. Et les artistes, en faisant leur forme d'art, vont colorer les badauds. C'est-à-dire les badauds qui vont assister à ces œuvres d'art vont prendre une couleur. Alors, évidemment, ils ne vont pas prendre tous la même couleur. Ce n'est pas le projet. Chacun va prendre une couleur différente. Il ne s'agit pas que les artistes remplacent le discours de la dictature par un autre discours et qu'on retrouve les badauds à nouveau d'une autre couleur uniforme. C'est un projet voilà, qui a été, dont le VP à la culture s'est emparé. Ça a été l'objet de discussions passionnantes parce qu'évidemment, ça pose des tas de questions, ce type de jeu. Et c'est pour ça qu'on l'a créé, évidemment, au-delà du simple fait du plaisir d'y jouer. Ne serait-ce que sur la question de la difficulté, pour un jeu vidéo, comme tous les jeux, il faut une difficulté croissante. qu'on était parti sur le principe d'avoir une difficulté croissante et donc de classer les dictatures dans un ordre croissant de difficulté. Ce qui a posé tout de suite problème avec notre élu, parce que nous, on s'est mis à la place des artistes qu'on devait incarner dans le jeu, en disant, bon ben, on va prendre le plus difficile, peut-être pour un artiste, c'est de s'exprimer dans la société du spectacle, parce que son discours est brouillé par tout un ensemble de discours avoisinants. Et c'est plus facile sous une dictature militaire, parce que vu qu'il n'y a aucun discours qui s'exprime, si lui, il y arrive, il va être plus entendu. L'élu nous a dit, mais non, vous pouvez pas, moi, je ne cautionne pas du tout, parce qu'on va penser que je dis qu'il est plus facile de vivre sous une dictature militaire que dans la société du spectacle, qui est pourtant quand même une démocratie. Voilà. Très bien entendu, ça a un impact sur le jeu réel, puisque du coup, au lieu d'avoir des dictatures classées, on est parti sur un mode aléatoire. C'est-à-dire le joueur commence au hasard sur un des types de dictatures. Alors, je ne vous l'ai pas dit, là, il y a une dictature de type militaire, type religieux, type bureaucratique, et la société du spectacle. Alors, tout ça, c'est surtout pour susciter le débat, parce qu'on n'a pas eu les moyens de vraiment creuser et accompagner ça dans le jeu pour rendre les différentes dictatures vraiment identifiables par rapport à ça. Mais voilà, l'élu s'est complètement emparé de ce sujet. Aussi avec ces questions d'élu, simple, normal, logique, c'est le département qui paie. Comment on reconnaît le département dedans ? Voilà, ce qui nous a amené à inclure des éléments du département reconnaissables dans le jeu vidéo. C'est un petit peu artificiel pour dire, par exemple, à un moment, bah, vous reconnaîtrez Pierre Vive dans le jeu vidéo. Je n'aurai pas le temps, malheureusement, de vous montrer. Alors, vous googlisez chute jeu vidéo, hein, ça vous enverra le lien. Il est téléchargeable gratuitement sur tous les PC. C'est juste qu'il faut une manette de jeu pour y jouer. On a inclus un aqueduc, voilà, des reconnaissables du département. Sur l'écran de jeu du départ, vous avez des œuvres d'art reconnaissables du département qui s'affichent. Voilà. Donc du coup, le jeu était bien ancré territorialement. On a répondu à la demande de l'élu qui était tout à fait légitime. Donc ça a été intéressant. Et puis, je reviendrai. Il y avait la question du budget aussi, hein, qui rendait important. L'accord de l'élu aussi. La démarche a été participative. En fait, on a voulu que créer ce jeu, ce soit l'occasion de tenir un discours sur la création du jeu vidéo aux jeunes, et qu'également, ils participent au contenu pour voir comment ça se faisait, mais aussi pourquoi on le faisait et quelles questions ça posait. Donc, une bonne partie du jeu, la musique, les affiches de propagande, donc de la propagande et puis les affiches que l'affichiste va coller à la place des affiches de propagande ont été dessinées par les jeunes. Les textes du slammer ont été faits par les jeunes, alors toujours avec un intervenant, un auteur, un écrivain pour écrire les textes du slammer, des musiciens pour faire la musique du jeu vidéo. Là, si tu peux lancer la petite vidéo de Debbie Debo, on a interviewé les différents auteurs qu'on a fait intervenir pour avoir leur retour sur le travail qu'on leur a fait faire. Et là, je vous montre, alors ça dure 2 minutes, j'ai le temps. Donc c'est une affichiste. Hein.
Debbie Debo, bonjour. Alors on est à Pierre Vive aujourd'hui pour la restitution d'une partie du jeu vidéo créé par le département. Et vous avez participé à des ateliers en médiathèque.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, ces ateliers ? Est-ce que vous avez fait créer aux jeunes qui ont participé ?
Oui, c'était...
Sylvie,
des enfants de 9 à 12 ans. Et le thème, c'était peut-être un petit peu confus au départ pour eux. C'était donc ça tournait autour de la propagande. Et moi, ce qu'on m'a demandé de faire avec eux, c'était de produire des slogans avec les directives d'Oscar, donc autour des 4 forces d'oppression, la religion, l'armée, la société de consommation et la bureaucratie. Et donc, j'ai demandé à ces jeunes enfants de produire des slogans comme si... Enfin, c'était pas en plus les slogans anti, c'était les slogans des oppresseurs. Donc voilà, c'était pas très évident sur un petit atelier de 3 ou 4 heures. On a déjà fait une recherche un petit peu autour de la... Enfin, Marie-Pierre a déjà fait tout un discours autour de...
Marie-Pierre, c'est la bibliothécaire qui a porté le projet. Marie-Pierre, soit la
même. C'est souvent lié. Ensuite, ils ont fait pas mal de recherches, un peu rapidement, un petit tour d'horizon sur Internet. Donc, ils ont pu voir les affiches qu'on connaît de propagande, soit de régime nazi, ou soviétique, ou chinois, ou ceci, cela. Puis là, ça a commencé à leur parler, parce que c'est aussi des choses qui font référence à des tas de choses qu'ils connaissent, finalement. Et puis, au final, ils ont de même raccordé avec beaucoup de choses qu'ils voient dans la publicité, qui est aussi une forme de propagande, évidemment, celle de notre époque. Et à partir de là, ils ont bien pigé le truc et ils ont produit quelques slogans selon les catégories. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
Merci beaucoup.
Un exemple de la manière dont les intervenants ont travaillé avec les jeunes. Donc là, c'était pour produire les affiches qu'on voit dans le jeu. Alors, je vous l'ai dit, on a fait intervenir. Bon, c'est un marché public. Hein. Alors, pour nous aider à monter ce marché, on a eu recours à Oscar Barda qui nous avait aidé à constituer les espaces de jeux vidéo à Pierre-Vive. Bon, ça tombe bien, c'est le seul candidat à candidater ensuite sur le marché. Il a pu obtenir ce marché et donc nous faire le jeu qu'on voulait après des échanges nombreux. Hein. Évidemment, c'est un dialogue. Le jeu a coûté du coup 100 000 euros sur 2 ans, hein, 50 000 chaque année. Bon, c'est très cher. Il aurait fallu le double pour que le jeu puisse être jouable sur smartphone ou sur console de jeu. Donc là, il n'est jouable que sur PC. Bon, on a eu pour ça l'aide de l'État, qu'on ne remerciera jamais assez, au titre de la labellisation BNR, qui a financé à hauteur de 60%. Ce n'est pas neutre, c'est un argument aussi politique pour notre élu, parce que notre élu, il était emballé, mais il n'est pas tout seul hein, à l'Assemblée départementale. Donc vous savez que quand il dit que l'État a légitimé le projet et va l'accompagner, ça aide à faire passer les 100 000 euros de pilules. Donc c'était un argument de poids, d'autant plus qu'il n'est pas question de générer de revenus avec. Le jeu est téléchargeable gratuitement. C'est pourquoi on n'a pas eu de subvention européenne d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez avoir des subventions européennes si vous générez du profit avec vos projets. Si vous êtes une collectivité et que c'est gratuit. Alors, on a souhaité... si tu peux passer à la diapo suivante et encore suivante. Ah oui, il a été téléchargé plus de 1500 fois aujourd'hui, ce jeu, en un an d'existence. Là, vous avez quelques images. Alors là, c'est une image du jeu en bas. Donc vous voyez celui qui se fait taper dessus par la milice, c'est le graffeur. Il y a évidemment une milice. Hein. La milice tape sur les artistes pour les empêcher de faire de l'art, et elle tape sur les habitants qui ont changé de couleur pour qu'ils redeviennent tout gris. Vous imaginez, voilà, les discours qu'on peut tenir. Les artistes sont des artistes. Quand ils se font taper dessus par la milice, ils se font taper dessus. Hein. Ils sont assommés, ils ne vont pas se défendre, ils ne vont pas sortir un pistolet. Tout ce qu'ils peuvent, c'est fuir, se planquer en attendant que la milice passe. Tu peux passer à la suivante. Alors, on a fait un questionnaire pour voir si nos objectifs étaient atteints avec le jeu. Elle est partie. En gros, Justine, s'il te plaît. Bon, plus tard. On a certains... C'est sans surprise, en fait. Le jeu a beaucoup plu. Il a eu beaucoup de succès. Donc, bon, c'était quand même le premier objectif. Ça marche bien. Les jeunes y jouent, ils rejouent. Par contre, donc je vous fais très très rapidement. Si tu peux passer à la suivante. Il est d'une prise en main assez aisée. C'était l'idée aussi, c'est que n'importe qui, y compris des non-joueurs, puisse jouer à ce jeu. Vous pourrez y jouer facilement hein, si vous vous lancez dedans. C'est très très facile. Hein. Pas que pour les enfants. Par contre, si tu peux passer à la diapo suivante. Bon, c'est très simple, les jeunes qui jouent comme ça ne font aucun lien entre le discours sur la liberté d'expression et le jeu vidéo auquel ils jouent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est sans surprise, puisqu'on sait que ce type d'outil, il faut de la médiation pour qu'on aille chercher un petit peu au-delà du premier sens. Hein, donc, je l'ai mis en gras. Bon, il se trouve aussi que... alors, c'est ce que montre le questionnaire. C'est 14% seulement d'entre les jeunes interrogés qui jouent à des jeux vidéo pour réfléchir. Hein. Ce n'est pas l'objectif premier quand ils jouent à un jeu vidéo. Donc, par exemple, vous voyez que la moitié d'entre eux estiment que les badauds des villes totalitaires qu'on présente sont libres de s'exprimer. Ils sont passés à côté d'un élément assez essentiel du jeu. Bon, autre apprentissage du questionnaire, c'est que bon, c'est un questionnaire qu'on a fait remplir par les jeunes qui étaient sur place, hein, sur le plateau de la médiathèque où on proposait le jeu. Beaucoup n'en connaissaient pas l'existence. Donc là aussi, c'est la question de la communication. Donc on conclut en gros indispensable médiation et communication. Donc on rectifie le tir aujourd'hui. Tu peux passer à la diapo suivante. On profite du dispositif. Alors c'est pas très net parce qu'en fait j'ai récupéré des images du bilan des services civiques mis à disposition par l'État depuis l'année dernière sur des missions d'EMI. On en a recruté plusieurs en binôme sur des territoires du département pour jouer. Si tu peux passer à la diapo suivante, pour jouer le rôle d'ambassadeur du numérique et travailler sur les questions de l'EMI, mais pas seulement, en profiter aussi pour qu'ils présentent notre jeu vidéo. Certains sont très jeunes, là il y a la nouvelle recrue qui ont commencé il y a quelques semaines, une d'entre elles avait 16 ans, donc on est quasiment de la médiation de pair à pair, hein, à ces âges-là, donc ça marche très bien. On a également recruté deux services civiques écrivains numériques pour aider les habitants dans leur démarche en ligne, sur le plateau de la médiathèque, mais qui aussi aujourd'hui, à qui on demande de faire de la médiation sur le jeu vidéo. Accompagné d'un carnet pédagogique qui a été écrit par une enseignante qui a travaillé pour nous à destination des enseignants, pour justement retirer avec les jeunes toutes les questions que pose ce jeu. Alors, malheureusement, je vais devoir filer. Donc, si vous avez une ou deux questions rapidement, mais je vous invite à télécharger le jeu et y jouer. Vous en verrez assez vite tout l'intérêt.
Est-ce que vous avez des questions ? Et très rapidement, autour de l'éducation aux médias et à l'information, vous avez monté d'autres projets ou c'est celui qui est vraiment pour l'instant le cœur du dispositif puisqu'il est lié à votre tranche d'âge ?
Alors, aujourd'hui, on en a d'autres. Effectivement, on a la présentation. On en a d'autres, effectivement, on a la présentation de l'offre de presse sur tablette. Je ne les ai pas tous en tête, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup lancé sur ce projet-là. Après, pour les services civiques qu'on fait intervenir, eux, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont venus tardivement à présenter le jeu. Au contraire, ils ont travaillé sur toutes les autres questions, plutôt que celle-là. D'ailleurs, c'est justement un des reproches qu'on a pu leur faire suite au travail qu'ils ont mené cette année et qu'on est en train de corriger sur cette nouvelle année.